Salut les cocos, c'est Peter dans vos oreilles. J'espère que vous allez bien. C'est roulé parler. Et je suis de retour. Eh oui, la pause estivale n'a pas encore eu lieu pour moi. Et pour une fois, je vais vous parler autre chose que mes 100 petits ternels tests sur les pétas et ci et ça et tu. Non, allez, on revient aux roots, on revient aux basiques. Petit rototo, comme ça c'est fait. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la série Secret Invasion, l'invasion, ou l'invasion secrète plutôt, série Marvel Disney+, qui s'est terminée hier. Et figurez-vous que j'étais extrêmement en retard, il me manquait les deux derniers épisodes. Et donc hier j'ai maté l'avant-dernier et pendant ma pause je me suis maté le dernier épisode pour être sûr, parce que là les spoilers un peu sur Twitter commençaient un petit peu légèrement à pulluler. Et je me suis dit, allez, vas-y, attaque-le une bonne fois, voile une bonne fois, je pourrai le revoir s'il y a besoin avec le fistoun, parce qu'il est encore fidèle au poste, il regarde. Alors, à la base de la série? Bon, rapidement, la série suit Nick Fury. Donc, toujours dans un univers post-endgame, post-blip, post-snap, post tout ce que vous voulez. Post-éclipse en français, voilà. Je comprends toujours pas pourquoi il parle d'éclipse. J'aurais préféré vraiment qu'il parle du snap. Parce que franchement, je trouve ça, voilà. Le snap de Thanos, le blip, ça aurait été le blip pour retour, mais pour eux, le blip, l'éclipse en tout cas, c'est toute la période de 5 ans de disparition. Bref. On retrouve Nick Fury et on retrouve les Skrulls qu'on n'avait pas revus depuis 2018 et Captain Marvel. Bon, si je mens techniquement, depuis 2019 et la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, où on se rendait compte que c'était Talos qui était Nick Fury pendant toute la durée du film. Bon, c'était un joli petit indice sur l'arrivée de Secret Invasion. La série... Et là, la série est disponible en intégralité. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoutez, et pourtant, je suis fan de Marvel. Et pourtant, Dieu sait que je suis plutôt bon public. Mais là, il faut quand même avouer que c'était un peu... Un petit peu. C'était pas mauvais. C'était pas répulsif ou répulsant et tout ce que vous voulez. Non, c'était loin d'être mauvais. Mais je pense que la série a souffert du même syndrome que beaucoup trop de séries Disney+, de manière générale, et les séries Marvel en particulier, et les séries Star Wars aussi, je pense qu'on peut dire également. Trop d'épisodes pour pas grand-chose, en finalité. Surtout que là, les deux derniers épisodes montent à 38 minutes, tout simplement. C'est vraiment des épisodes courts. Pourquoi faire absolument 6 épisodes s'il n'y a pas de quoi faire 6 épisodes? Là, vraiment, les deux premiers épisodes font une heure chacun. Encore une fois, je ne peux que repenser à Obi-Wan Kenobi, parce que pour moi, c'est l'exemple parfait. Ce sont... Ils devraient faire, au lieu de faire des séries comme ça, ils devraient faire des specials, comme ils avaient fait avec les Gardiens de la Galaxie spécial Noël. Quelque chose qui fait la durée que ça doit faire. Et c'est exactement la même chose que j'avais, le même reproche que j'avais à faire à Obi-Wan Kenobi. Je pense vraiment que, au lieu d'en faire une série, faites-en un film, même si c'est pas un film qui sort au cinéma, mais faites-en un film Disney+, un film Disney+ qui dure 2h30. Et c'est fini, on n'en parle plus. Et franchement, je pense que ce serait beaucoup plus digeste, les gens se sentiraient beaucoup moins lésés, et on irait un peu plus... Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de détours artificiels qui sont là juste pour rallonger. Le problème de ces séries, c'est qu'on a l'impression d'assister aux quêtes annexes d'un RPG. C'est sympa pour augmenter la durée de vie, mais ça ne sert absolument à rien. Et là, Secret Invasion, j'ai presque même envie de dire, en soi, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Alors, est-ce qu'on va dire que ça spoil, ou en tout cas ça souhaite indiquer qu'il va se passer plus de choses dans le futur, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, pour le moment, je vous donne vraiment mon avis sans spoiler, mais je pense que dans quelques minutes, je vous dirai quand on passera en mode spoiler. Parce que ça va être compliqué de ne pas spoiler, de toute manière. La série n'est pas moche, contrairement à ce que j'ai pu lire, honnêtement. Visuellement, la série est assez intéressante. C'est classique aussi, hein, il faut dire quand même ce qui est en grande majorité. Ça reprend un petit peu les codes du thriller, un peu espionnage à la Winter Soldier. Ce qui s'y est très bien, à la série. Mais je pense que la série se perd en voulant ajouter des détails par-ci par-là. Et disons que la fin est un peu ridicule. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est ridicule. Donc, je vais résumer mon avis. C'est bien, c'est pas ouf. Et voilà. Voilà. Marc, là, ça fait 6 minutes 15. On va dérouler maintenant en mode spoiler complet. Donc, si vous n'avez pas vu la série, si vous avez l'intention d'avoir ou quoi que ce soit, bah, coupez maintenant si vous voulez pas, si vous vous en branlez, ou alors si vous avez déjà vu la série, welcome, hein, welcome sur la version spoiler. Ce qui est triste, c'est que la série démarre vraiment bien. Premier épisode et tout, petite tension, les petites scènes d'action et tout. Franchement, la série démarre très bien. Pour moi, déjà, la première erreur, bon, c'est peut-être juste mon petit cœur de fan qui ne le supporte pas, mais c'est la mort de Maria Hill à la fin de l'épisode 1. Tuer Maria Hill, qui est quand même un putain de personnage important dans l'univers Marvel, nous l'a buté au détour de l'épisode 1 de la série Disney+, que peut-être personne ne verra. Je trouve ça osé et couillu dans un sens, mais triste parce que je me dis, si ça se trouve, bah, dans le prochain Captain America, ils vont parler du fait qu'elle soit morte et peut-être que la moitié, voire les trois quarts de l'audience vont se dire, hein, Maria Hill est morte? Quand ça? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Donc, était-il nécessaire de la faire mourir? J'aurais vraiment préféré à la limite qu'on se rende compte que c'était un Skrull. Voilà, vraiment, j'aurais plutôt préféré ça pour Maria Hill. Ce qui aurait été amusant dans un sens, puisqu'on serait dit, tiens, Maria Hill a été dupliquée par la femme de Talos, je sais plus comment elle s'appelle, dans Far From Home, alors qu'en vérité, elle était déjà un Skrull à ce moment-là, par exemple. Là, j'aurais trouvé ça plutôt sympa. C'est le côté... Pour le côté choc, fin de l'épisode 1, pour te donner envie de regarder la suite, pourquoi pas. Dès l'épisode 2, ça s'embourbe, en fait. J'ai l'impression que... Donc, la série fait 6 épisodes. Et comme d'habitude, j'ai l'impression que l'épisode 2-3, voire même 2-3-4, ne sont que des ventres mous qui sont là juste pour gonfler artificiellement la durée de vie. Nick Fury qui se traîne et il a du mal. Oui, c'est vrai qu'il commence à avoir du mal. Et franchement, c'est vrai que ça commence à être de plus en plus compliqué de croire en un Nick Fury au cœur de l'action. Samuel Lee Jackson commence quand même à accuser son âge, il faut dire ce qui est. Quand tu veux, toi, tu passes. Hein. Oui, arrête de me regarder comme un con et avance plutôt. Samuel Lee Jackson, il a quand même un certain âge, hein, il a plus de 70 ans. Donc, on ne demande pas... Enfin bon, on demande à Harrison Ford de continuer à le faire, à jouer le jeu, entre guillemets, pour Indiana Jones. Donc, bon... Mais Nick Fury, ça fait un moment que je le vois plus comme le directeur, entre guillemets, du renouveau du Shield, le nouveau directeur du Mega Shield réinventé ou quoi que ce soit, derrière un bureau et en mode posé avec sa voix grave et tout bordel. Que, bon, petite scène d'action de temps en temps, mais voilà. Là, vraiment faire la série centrée sur lui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, appeler la série Nick Fury, je pense. Parce que l'appeler Secret Invasion, on s'attend à plus et en finalité on suit littéralement, j'exagère, hein, donc c'est pas littéralement, mais on va suivre 7 ou 8 Skrulls différents et encore, il y a vraiment le leader, le méchant, hein, voilà, Kravik, voilà. C'est le seul dont on se souvient du nom, en finalité. Avec Gaïa, donc jouée par Emilia Clarke, qui joue la fille de Talos. Et Talos, voilà, qui, voilà, pour aussi le choc, meurt à la fin de l'épisode 3. Donc voilà, en gros, fin de l'épisode 1, il nous en tue un. Fin de l'épisode 3, il nous en tue un autre. Pour tenter, je pense, artificiellement, de maintenir un quelconque intérêt. Ce qui marche, parce qu'on a quand même de l'empathie pour ces personnages qu'on suit quand même depuis plus ou moins longtemps. Parce que même si Talos, c'est pas si vieux que ça, ça fait 5 ans. Mine de rien, ça fait quand même 5 ans qu'on connaît le personnage. Il y a le côté relation père-fille que je trouve plutôt sympa, même si c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, évidemment. Mais ça fait quand même toujours du bien de voir ça. Mais sinon, après, tous les Skrulls sont des soldats sans tête, des Glenn sans tête, j'ai envie de dire. Sans tête, parce qu'ils n'arrêtent pas de changer de forme. Ouais, ce Kravik qui vrille complètement méchant, c'est pas trop pourquoi il pute les. Bon, quand même à l'épisode. Fin de l'épisode 4 ou épisode 5 Épisode 4 J'arrive même plus à savoir. Je confonds les épisodes tellement ça se mélange dans ma tête. Où là, il y a quand même une tentative de rébellion parce que les Skrulls. À ses ordres, se rendre compte qu'il a vrillé quand même complètement taré. Donc, il y a une petite tentative de rébellion, mais sans succès. Le côté positif, je trouve, a été de... Vas-y, rentre. Le côté positif de la chose... Ah oui, donc tu passes là. Je pensais que tu allais te garer. Putain, bien casse-couille celle-là. Pour moi, le côté positif a été c'était épisode 2 en finalité, parce qu'ils nous font croire que putain, je vais arriver avec mes vitesses, j'ai du mal à parler et à passer mes vitesses en même temps. Ils nous font croire que Gaïa meurt à la fin de l'épisode 2 ou à la fin de l'épisode 3 justement. Ah bah oui, c'est ça. Ils nous font croire qu'elle meurt à la fin de l'épisode 3 pour qu'on se rende compte au début de l'épisode 4 qu'elle n'est pas morte, pour perdre finalement Talos à la fin de l'épisode 4. Voilà. Donc en gros, on pense avoir perdu Gaïa, mais finalement elle est en vie. Dernière rencontre avec son père, sans qu'on le sache. On se dit, ah bah enfin ils ont une nouvelle chance. Et puis en fait, c'est Talos qui passe l'arme à gauche à la fin de l'épisode. Bref, la bonne idée a été de réintroduire le concept d'Extremis qu'on avait vu dans Iron Man 3. Le fait de pouvoir s'auto-guérir, le corps qui s'auto-guérit avec les effets lumineux et tout ça. J'aime toujours autant l'effet. C'est quelque chose qui est établi dans l'univers depuis 10 ans. Donc, pour moi, ça passe vraiment bien. Ça passe bien. Ça reste, entre guillemets, crédible dans l'univers en lui-même. C'est-à-dire que, après 10 ans, la technologie a pu tomber entre les mains de... Voilà. Donc, ça pour moi, ça passe. C'est bien amené. Ça rajoute un petit côté... un petit côté suspense, un petit côté pouvoir... Parce que sinon les Skrulls c'est juste des gars lambda mais qui peuvent changer de forme. Même si dans un sens, moi j'aurais vraiment préféré un thriller, paranoïaque, où vraiment de bout en bout on ne sait pas qui est qui. Là le seul côté où ça joue un petit peu, c'est à la fin de l'épisode 1, au moment où Maria Hill meurt, pendant 2 secondes ils arrivent à nous faire croire que c'est Maria Hill. Qui est un Skrull, alors qu'en vérité, Nick Fury lève le flingue, la bute, et c'est là qu'on se rend compte que c'était le Skrull était en Nick Fury et n'était pas à Maria Hill. Donc ça, c'était plutôt bien fait. Il y a le côté avec Rhodes, War Machine, où ça fonctionne aussi un petit peu, parce qu'on le voit, on le voit pas tout de suite arriver. À la première scène où on voit Rhodes, on pense pas forcément que c'est le cas. À la deuxième scène, pour moi, c'était déjà arrivé. Rhodes étant... dans la série est un archi-con, connard, arrogant et tout ça, on se rend compte tout de suite que c'est pas lui. D'ailleurs, à la fin, ils nous disent, entre guillemets, que Rod était un Skrull depuis un certain temps, depuis longtemps, et longtemps ça veut tout et rien dire. Donc il y a plein de personnes qui sont déjà persuadées qu'en gros il est Skrull depuis Civil War, je n'y crois pas, et de toute manière la série ne donne rien à ce niveau-là, qui permet de penser que c'est un Skrull depuis Civil War ou depuis Infinity War. Ou, voilà. Moi, dans ma tête, jusqu'à Endgame, c'est sûr et certain que c'était le Rhodes original. Pour moi, il est remplacé après Endgame. Ça coule de source pour moi. Ne serait-ce qu'en termes de... Et voire même après Falcon. Parce que... il a encore un... On le voit rapidement dans Falcon et Winter Soldier. Et il a un petit speech. Plutôt bien... plutôt joli. Avec Sam sur la responsabilité. Sur le fait d'avoir donné le bouclier et tout ça. Je vois pas... en tout cas, la version de Rod Skrull qui nous montre dans la série Secret Invasion est vraiment un connard fini. Je pense que cette version-là ne serait même pas donné la peine d'aller voir Sam. Donc, pour moi, ça tient pas. Bref, mais un certain temps, enfin, ça fait longtemps, ça peut être un an. Hein. La temporalité depuis Endgame est complètement chamboulée. On ne sait pas quelle... on n'est pas encore revenu au mode le film se déroule à l'année de sa sortie. Pour le moment, c'est toujours le flou total. Far From Home, on pense que ça se déroule courant 2024, voire 2025. Mais on n'en a aucune putain d'idée. C'est ça le problème à l'heure actuelle, c'est que c'est pas clair. Et je pense qu'eux-mêmes ne sont pas clairs. Ils ont eu une idée couillue de base, faire ce blip, faire cette ellipse de 5 ans qui marche super bien dans Endgame. Mais le problème, c'est qu'ils veulent à tout prix... que tout se passe post-endgame. Et je pense que ça a été une erreur. Genre même Shang-Chi ou autre pourrait très bien se passer pendant l'éclipse, pendant les 5 ans. Ça n'aurait absolument pas dérangé. Ça ne change pas grand-chose, à part pour la scène post-générique. Et encore, la scène post-générique peut avoir lieu plusieurs années après ou quoi que ce soit. Donc il n'y a vraiment pas de... À ce niveau-là, il n'y avait vraiment pas de... de complications ou autres, enfin j'ai du mal à voir les choses quoi. Je comprends pas toujours leur logique. Je pense que c'est des choses qui pourraient être simples, ils se les compliquent inutilement. Bref, donc voilà. Donc il y a ce côté pouvoir au départ qui est sympa, même si je pense qu'ils auraient pu faire sans. Et là, à la fin d'épisode 5-6 plutôt, là c'est le pompon sur la Garonne. Ça devient, j'ai presque envie de dire n'importe quoi. On se rend compte qu'en fait, pendant la bataille pour la Terre, alors j'adore, ils appellent ça maintenant la bataille pour la Terre. Moi, c'est la bataille pour l'univers, parce que Tony Stark, Iron Man ne sauve pas que la planète Terre, il sauve l'univers entier, parce que Thanos est prêt à détruire l'univers à ce moment-là, quoi. Donc, l'appeler la bataille de la Terre, je la trouve... bon, bref, pas grave, il fallait lui trouver un nom, ils ont trouvé celui-là, pourquoi pas. Donc là, maintenant, on nous dit que Nick Fury, qui pourtant... Dieu sait, a tenté le coup avec les armes d'Hydra, se fait choper dans Avengers 1, blablabla, tapote un peu sur les doigts, se fait virer, se fait reprendre, se fait jarter, se fait reprendre, part dans l'espace, en finalité on sait même pas ce qu'il fait pendant 2-3 ans dans l'espace après Endgame, on comprend pas tout ça, c'est assez flou, la série ne l'explique pas alors que la série ne fait que suivre Nick Fury en long, en large, en travers, mais ne va pas nous parler... de ce moment qui passe sur Terre, de pourquoi il le passe sur Terre ou quoi que ce soit. Bref, pourquoi pas. Et là, on nous sort, pêle-mêle, que Nick Fury a eu l'idée, après la bataille, d'envoyer des gars sur le champ de bataille pour récupérer du sang, pour récupérer l'ADN des super-héros. Pourquoi pas. En grossissant le trait, pourquoi pas. Et là, on se rend compte qu'ils ont répertorié, mais pratiquement, tous les héros et les méchants de l'univers Marvel. Tu dis ok. Donc ils ont trouvé l'ADN, ils ont su savoir qui c'était. Et d'un seul, il y a une machine magique. Tu rentres dedans, tu mets tout dedans et tu te récupères les pouvoirs de tous les héros Marvel. Comme ça. Y compris le pouvoir d'Ant-Man de rétrécir et de grandir. Alors que, je suis désolé, même si tu as l'ADN de Scott Lang, Scott Lang, lui, n'a pas le pouvoir de rétrécir ou d'agrandir. Sans ses particules PIM, sans son costume, il ne peut pas le faire. Elle peut le faire. Pour une raison qu'on n'explique pas. Parce que ça rend cool sur le moment. Pourquoi pas. Et là, on se retrouve donc à la fin avec une bataille, avec un super Skrull et donc Gaïa, qui finalement, à la limite, je l'ai vu arriver quand même, mais au tout début, je me suis laissé avoir. Je pensais que c'était Nick Fury. Et puis finalement, c'est elle. On ne sait pas pourquoi il fait tourner la machine avec lui, quand il pense encore que c'est Nick Fury, avec lui dedans. Puisque techniquement, mais ça avait été Nick Fury, bah, il lui aurait quand même donné tous les pouvoirs. Donc pourquoi? Pourquoi lui donner ce pouvoir-là pour faire une bataille finale? On voit pas l'intérêt. Autant le buter une bonne fois et on n'en parle plus. C'est pas logique. Et donc là, il se retrouve littéralement avec les pouvoirs de tous les personnages Marvel qu'ils arrivent à utiliser sans aucun problème 14 secondes après avoir été instruit de ses pouvoirs. Donc littéralement, à un moment donné, Gaïa a les antennes de Mantis qui poussent. Elle lui dit Thor. Et voilà. Donc Gaïa, qui se connaît Mantis, connaît encore plus ses pouvoirs. Comment elle sait comment les trigger? Rien n'est expliqué. On part d'un, on a l'impression juste que, bah, que les personnages sont en fait des fans du MCU et ont regardé les films avec nous. Et donc connaissent les personnages et donc savent quel pouvoir utiliser à quel moment. C'est vraiment, voilà, à un moment donné, même il a le bras de, je sais jamais comment il s'appelle, du méchant sorcier, l'homme de main de Thanos. Celui que Tony Stark appelle Voldemort. Il a la main qui se transforme en lui et puis fait des incantations magiques. Le gars, tu connais rien à la magie ou quoi que ce soit, mais ça fonctionne. Là, j'avoue que la série m'a perdu. Là, à ce moment-là, je me dis ça devient n'importe quoi. En gros, ben, les Avengers n'ont plus rien de spécial, puisque là, littéralement, maintenant, il y a une meuf sur Terre qui combine tous les pouvoirs. Donc, ben, il n'y a plus besoin que de cette personne-là. Je veux dire, maintenant, c'est cheaté, quoi. C'est cheaté. Et pourquoi? Enfin, bref, je sais pas. C'est un gros problème de cohérence. C'est déjà une porte de sortie un peu trop facile. Et encore, tout ce qui... il fallait juste une bataille entre les deux Skrulls à la limite. Pourquoi pas faire une bataille plus viscérale plutôt que de partir sur un combat super héroïque, super pouvoir. Là, en gros, c'est... j'ai l'impression de retrouver les épisodes de La Vie de Famille quand Steve Urkel, il a de l'ADN de tout le monde. Il se transforme en qui il veut quand il veut. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je me dis... Ouais. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que ce personnage va devenir pour la suite du MCU? Je ne sais pas. Mais là, concrètement, on sent vraiment qu'il y a... Il y a un problème. La série avait tout pour être vraiment chamée, avec un de ses héros les plus charismatiques. Et là, ah ben maintenant, il y a une femme. Bon, allez, pourquoi pas? Il y a une femme, en plus, c'est une Skrull. Ouais, pourquoi pas? Mais à un moment donné, tu vois, ils sont amoureux. Puis finalement, elle dit, ouais, il faut qu'elle le tue. Puis finalement, elle peut pas le tuer, elle le tue pas. Et finalement, ils sont quand même ensemble. Ça rajoute des couches et des couches et des couches de complexité, en tout cas ça le souhaite, à un personnage qui, un, n'a pas besoin d'être aussi clairement explicité, et deux, bah, c'est pas raccord. On va dire, ouais, il a une femme, donc une femme qu'il a dû voir une fois pendant 15 ans, une fois sur 15 ans. Le gars n'est jamais à la maison, je veux dire, c'est pas logique, je comprends pas. En fait, c'est ça que je m'en rends compte. Plus j'en parle et plus j'ai l'impression que la série m'énerve. En finalité, il y a plein de choses que j'aurais faites différemment. Mais en tout cas, j'aurais aimé voir différemment. Surtout plein de choses que j'avais même pas envie de voir, quoi. Donc, malgré ces critiques, en fait, c'est ça. Ce que je critique, c'est que la série a voulu se terminer, encore une fois, plutôt sur un combat en CGI avec deux personnages plein de pouvoirs et tout, au lieu de le terminer de manière plus simple, plus viscérale, quoi. Je comprends pas. Ils ont encore une fois tapé un peu à côté, et c'est vrai que y a pas beaucoup de projets du MCU que je n'ai pas aimé, vraiment, sincèrement. Quantum Mania, il faudra que je le revoie vraiment pour lui redonner une chance. Parce que ça m'est déjà arrivé avec le premier Ant-Man, que le premier Ant-Man, quand j'ai été le voir à l'époque, c'était pas ce que j'attendais. Donc j'avais été déçu. Quantum Mania, maintenant que je sais à quoi m'attendre, peut-être que je l'apprécierai plus pour ce qu'il est. Il faudra voir. Mais là, bah, Secret Invasion, bah, dommage. J'ai envie de dire, voilà, j'en espérais mieux. Je pensais que ce serait que ça pouvait être mieux. C'est pas mauvais, mais c'est pas des pépites comme WandaVision ou Loki que je sais que je reverrai avec plaisir. Là, Secret Invasion, c'est un peu comme Falcon et Winter Soldier. Bah, je le rematerai peut-être vraiment si je me fais une intégrale, je me refais une intégrale un jour. Et encore, j'aimerais avoir une version remontée en 1h30, 2h. Je pense que ça suffirait largement. Et on perdrait rien. Et ce serait plus efficace, quoi. Donc, ça reste triste de manière générale, je dois dire. Mais bon. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Bref, voilà. C'était mon avis sur Secret Invasion. Bah, comme vous aurez pu le constater, j'ai pas été dithyrambique. Et non, je ne suis pas toujours dithyrambique sur ce que Marvel fait. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est devenu compliqué. Donc j'espère vraiment que la nouvelle politique en cours par rapport à Disney sur Bob Iger, qui, veut faire des économies, évidemment, mais s'est peut-être rendu compte, entre guillemets, lui-même, qu'ils ont un peu trop exploité le filon. Ils ont peut-être un peu trop tiré sur la corde de Marvel ou autre. Ils ont un peu dilué la magie, on va dire, dans un sens. Je pense que c'est ce que j'ai envie de dire, c'est le ressenti final, c'est qu'ils ont un peu dilué la magie de ces licences en les rendant trop... En faisant une série qu'on va voir toutes les semaines, je pense qu'il faudrait une série par an, grand max. Mais il faudrait que ce soit une série vraiment qui crée l'événement et éventuellement... qui n'est pas autant d'épisodes, même une mini-série de 3 épisodes, je pense, serait largement suffisant et largement sympathique, quoi. Donc, j'espère que, en tout cas, les rumeurs veulent quand même que Marvel redresse un petit peu la barre. Je pense que les prochains films ont intérêt à tabasser. Bon, le prochain, c'est The Marvels. On va voir ce que ça donne, mais c'est déjà une bonne chose qu'ils commencent à se décider à... Ils ont repoussé The Marvels, qui aurait dû sortir là, pour peaufiner le film, pour peaufiner les effets spéciaux et tout ça. Donc, j'ai bon espoir qu'ils repartent sur quelque chose de positif et de qualitatif. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que le futur du MCU soit brillant, parce que je n'en doute pas qu'il peut encore l'être à fond. Donc, on croise les doigts et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.